Bonjour, c'est Blandine pour Des brouettes et des ailes, le podcast qui raconte l'heureuse épopée de mon année. Les pieds dans la terre et le cœur dans le ciel. Épisode 5, première partie. J'avais vraiment envie d'avoir un épisode de ce podcast avec Samuel. Il a suivi de près mes aventures cette année. Lors des interstices de mes expériences de woofing, on a eu plusieurs échanges assez ressemblants avec celui que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui. Samuel, je l'ai rencontré lors d'une conférence que j'avais trouvée passionnante à Paris, et je suis allée lui proposer de continuer la réflexion autour d'un verre. Ce qu'il aime, lui, dans la vie, c'est agir pour la transformation des organisations et des projets, grâce au co-design et à l'intelligence collective. Je l'ai vu à l'œuvre dans ma vie professionnelle. Avec son autorité naturelle et le sens du mot juste, il chamboule respectueusement l'ordre établi pour plus de conscience, d'alignement, de cohérence et de justice. C'est peut-être l'une des personnes les plus créatives et engagées que j'ai pu rencontrer. Avec son art de poser les bonnes questions, c'est d'ailleurs le nom qu'il a choisi pour sa nouvelle organisation, la bonne question, il m'amène à vous livrer en toute transparence mes vécus sur les dimensions du rapport au corps et à la spiritualité dans ce voyage au cœur des écolieux. J'espère que cette discussion, tout à fait fidèle à celle que l'on a pu avoir il y a quelques mois autour d'une bière parisienne un soir de semaine, divisée en deux à cause de sa longueur, vous plaira. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que j'ai enregistré ces épisodes de podcast enceinte. Parfois vous avez dû m'entendre essouffler ou m'étonner des petits mouvements dans mon ventre. Là, je suis à 9 mois de grossesse. Pleine comme la lune, comme dit ma sœur. Ce bébé aura participé avec moi à la création de ses partages, il était là tout le temps, et d'ailleurs je parle d'elle dans cet épisode. Oui, parce qu'on a décidé de l'appeler elle, même si on connaît pas encore son sexe. Bref, tout ça pour vous dire qu'étant donné que j'accouche à tout moment maintenant, je vais marquer une pause d'une durée indéterminée avant de reprendre pour les quelques derniers épisodes. J'ai encore envie d'en faire deux ou trois avec des experts qui nous partageront leurs expériences de vie à eux. Mais ça, ça sera après, car il est temps pour moi maintenant de plonger dans cette nouvelle expérience. Et en entier. Alors à bientôt.
Cool. Écoute, moi j'avais une première question très terre à terre pour toi. Est-ce qu'il y a des gestes que tu as eu l'occasion de faire quand tu étais dans ces lieux et que tu n'avais jamais fait quand tu étais à Paris?
Pas mal. Oui, j'en ai un qui me vient tout de suite en tête. C'est un rituel qui est fait dans la communauté de l'Arche de Saint-Antoine, qui est donc en Isère. Et là-bas, tous les matins, ils ont pour habitude de se faire une salutation. Et donc en fait, c'est simplement, le concept, c'est de se dire bonjour le matin, mais de manière très sincère, en se souhaitant la paix. Et ça prend place comme ça, il y a des gens qui se mettent en ligne, et puis... On est tous à un mètre chacun à peu près, et puis les uns devant les autres, en fait, on passe individuellement et on se regarde, et il y a vraiment quelques secondes de regard partagé, et ça c'est quand même souvent assez fort, de vraiment croiser les regards. Et puis on joint les mains, et on parle pas en fait, juste on baisse la tête, et le symbole de ça c'est de dire « je te souhaite la paix pour cette journée ». Et en fait, ça peut paraître un peu anodin comme ça. Tous les matins à 8h15, ceux qui sont disponibles viennent en fait pour se souhaiter la paix. Tout le monde ne vient pas. C'est vraiment, voilà, c'est si t'es dans le mood, si t'en as envie. Et ça peut paraître assez anodin comme ça, mais en fait, c'est vrai que si tu le vis vraiment de manière avec cette introspection, quoi, de souhaiter réellement ce que t'es en train de vivre et de faire et de proposer à l'autre. Et ça, c'est super fort, notamment si la veille, par exemple, voilà, t'as eu une discussion un peu houleuse avec quelqu'un et que le lendemain matin, tu te retrouves face à face, tu te regardes plusieurs secondes et tu te dis « je te souhaite la paix pour cette journée », c'est pas anodin dans les relations au final.
Et tu disais tous les matins à 8h15, est-ce qu'il y a comme ça des routines que t'as suivies pendant que t'étais dans ces lieux, et est-ce que t'as l'impression que justement cette routine t'a aussi apporté des choses ?
Ouais, la routine, c'est effectivement très souvent présent dans la vie de ces lieux. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ça permet vraiment de vivre un rythme équilibré, je trouve. Moi, ça m'a permis en tout cas de me lever tôt, de me coucher tôt, de prendre soin de moi. Il y a une forme de prendre soin de son corps, parce qu'en fait, les horaires sont prévus aussi pour que ça soit des repas pas trop tard, des levées assez tôt avec le soleil. Donc, t'étais vraiment dans un rythme assez respectueux. Et en fait, dans chaque lieu dans lequel je suis passée, à peu près, et dans lequel t'as du travail collectif, t'as des horaires. Et donc, quelque part, t'es en même temps conscient des horaires et en même temps, t'es pas du tout tout le temps sur ta montre. Je sais pas, c'est un peu bizarre. T'es pas non plus... Parce qu'il y a cette notion de temps long où, en fait, les plages de travail, ça va être 3 heures, une seule et même activité. Donc, en fait, t'oublies le temps qui passe à un certain moment. Mais juste, voilà, tu sais qu'il y a quelques rendez-vous importants. Donc, par exemple, à l'Arche de Saint-Antoine, à partir de 7 heures, t'as tout un programme. À partir de 7, c'est presque une vie un peu monastique, si tu veux. À partir de 7 heures, t'as le petit déjeuner. À 8h15, pour ceux qui veulent, t'as la salutation. À 8 heures, d'ailleurs, t'as une heure de méditation pour ceux qui veulent. À 10h20, t'as la prière du jour, l'office, ils appellent ça. Donc c'est la lecture de l'évangile du jour avec un commentaire et des temps d'intention de prière partagée. T'as le déjeuner à midi, t'as le dîner à 19h. Ah oui, mais j'oubliais, très important, les pluches. À l'Arche de Saint-Antoine, tous les matins à 8h20, on se retrouve pour 1h15 de pluche, pour éplucher des légumes. Donc là, on est... 10, 15, 20, 30, dépendamment du nombre de bénévoles qui sont là, et ça épluche du légume, de la courgette, du carotte, du chou, du brocoli, tout ce que tu veux, pendant 1h15, ce qui permet ensuite aux cuisiniers uniquement de cuisiner et de pas passer leur temps à préparer la cuisine, parce que c'est extrêmement long, et étant donné que toute la cuisine se base sur les légumes, il y a énormément de choses à couper, éplucher, et ça, c'est le moment papote de la journée qui est hyper sympa. Et à 18h30, juste avant le dîner, t'as la prière du soir, qui est souvent autour d'un feu, parce que c'est un symbole important pour eux. Et donc, en fait, t'as un sorte d'automatisme qui se met en place, de savoir... Puis t'as toujours la cloche qui sonne, quand c'est le moment d'un rituel partagé. Et donc, quand cette cloche sonne, tout de suite, tu dis « Ah, c'est l'appel à la prière, c'est l'appel au déjeuner, c'est l'appel à la salutation. » Et moi, j'ai aimé ce rythme-là, et le respecter, et rentrer dans cette sorte de... Bah, c'est ça, cette routine qui te permet d'approfondir jour après jour, en fait.
Parler de travail collectif, de rituels partagés, comment, toi, t'as réussi à gérer justement l'articulation entre l'individuel et le collectif là-bas? Et comment est-ce que t'as observé ou remarqué que ceux qui vivent carrément dans ces lieux-là gèrent cette dimension-là? Comment est-ce que tu t'y retrouves à la fois dans des moments de quête d'intériorité et dans des moments de partage? Comment est-ce que tu fais en sorte que l'un n'empiète pas sur l'autre ou que ce soit toujours un peu le bon moment pour quelque chose de très individuel, très centré et quelque chose de plus ouvert?
Bah déjà, quand tu me dis ça, je pense tout de suite à l'étonnement que j'ai eu quand j'ai rencontré un certain nombre de personnes dans ces lieux qui se présentaient comme des personnes qui peuvent vite avoir des gueules de bois sociales. Tu vois, et qui vont te dire, moi, de nature, je suis plutôt quelqu'un qui a besoin vraiment de temps, de calme, de solitude. Et pourtant, ils sont dans des lieux, un, collectifs, voire même dans des communautés, qui en plus de ça accueillent souvent des gens qui viennent se former. Et c'est très très exigeant, il y a beaucoup de monde qui passe, presque chaque semaine, en tout cas à l'Arche par exemple, quand c'est des temps d'accueil, tu peux avoir 100 personnes qui viennent pour une semaine, et puis... Après, t'as des gens qui tous les 2-3 jours changent et parfois t'as 20 personnes qui arrivent pour 2 jours et il faut les accueillir et puis ils ont tous envie de connaître qui tu es, ce que tu fais, pourquoi t'as fait ce choix de vie radicale. Donc ils sont habitués à répondre un peu tout le temps aux mêmes questions et donc tu les vois toujours avec ce sourire répondre à cette question de « Ah, ça fait combien de temps que t'es à l'Arche ?» Et ben moi, en fait... Et en fait, toi, quand tu restes ne serait-ce qu'un mois et que tu vois plusieurs salves de personnes qui passent et qui s'en vont... Ben, tu vois parfois la même personne répondre 5 fois à la même question, toujours avec le même sourire. Et du coup, se pose la question de comment ils arrivent à équilibrer ça. Parce que pour des personnes qui, en plus de ça, sont pas naturellement attirées par la rencontre, surtout une rencontre qui peut durer que quelques heures ou quelques jours, évidemment, ça a été longtemps discuté dans ces lieux pour permettre à chacun d'équilibrer ça comme ils le peuvent. Ça n'empêche pas que moi, j'ai souvent entendu dans des témoignages, quand on fait des cercles de parole et tout, des gens qui disent « voilà, c'est beaucoup pour moi, il faut vraiment que je trouve un espace plus de repos et de solitude ». Mais ce qui est très important, c'est que c'est essentiel que dans chaque lieu, chacun ait sa chambre. Et de toute façon, il y a des espaces individuels pour chacun. Et ça, c'est tout le monde a besoin de son refuge et ça existe. Enfin, je pense que c'est un impondérable, c'est une certitude. Et après, effectivement... Notamment, là, quand je pense à l'Arche, je sais que eux, ce qu'ils disent souvent, c'est qu'ils sont toujours en quête de cette unité intérieure, donc soit avec soi-même, déjà de cohérence entre la parole, les actes et les pensées. Donc ça, c'est tout un premier travail de moi avec moi-même. Je cherche cette unité entre aussi ma psyché, mon corps et mon âme. Donc cette partie incarnée, cette partie spirituelle. Et aussi, je cherche à être un en communauté, donc avec l'autre, à travers tout le travail relationnel qu'ils ont et le travail autour de la non-violence, qui est tout un chapitre dont on pourra discuter, et d'être un avec le tout autre, donc là, pour le coup, la nature, Dieu. Et donc ça, c'est c'est entre guillemets du trois travail qui se complètent et qui demandent des espaces matériels et spirituels différents, quoi.
Et justement, à propos de ces espaces, tu mentionnais un tout petit peu plus tôt le terme de refuge. Moi, je suis marqué à quel point, dans la vie parisienne, il me semble qu'on manque de refuge, que ce soit une chambre, comme tu disais, mais que ce soit aussi des espaces intérieurs. Comment t'as perçu justement cette notion de refuge dans ces lieux-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est recherché? Comment est-ce que chacun gère ça, et comment toi, peut-être, t'as aussi trouvé refuge dans des activités, dans des lieux, dans des temporalités diverses et variées pendant ton parcours là-bas?
Ça me fait penser à plein de moments et d'espaces. Moi, Gloria, ça a été un refuge, pas mal. Donc Gloria, mon van. La première expérience en woofing que j'ai faite, j'étais à la ferme légère et j'étais dans un dortoir où on était toujours... Alors les premiers jours, j'étais toute seule et je me disais « Yes, j'espère que ça va durer ». Et puis au fur et à mesure, il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées, et puis il y a eu des stagiaires jusqu'à ce qu'on puisse être parfois 6 dans la même chambre. Et étant donné que t'es dans un lieu collectif et que toi, particulièrement parce que tu viens en tant que bénévole et que t'es pas du tout engagé dans le lieu, que tu restes que quelques semaines, bah voilà, t'es dans un dortoir. Et je me suis dit, ok, je suis contente d'avoir expérimenté ça, mais je vois bien que c'est du luxe et j'adorerais accéder à ça, d'avoir mon propre van, parce que du coup, il y en a un certain nombre de woofers habitués qui viennent avec leur van parce que ça reste leur petite maison à eux, leur espace. Donc déjà, pour sécuriser ce premier cocon, quand t'es pas résident dans un lieu, t'es pas engagé, tu n'as pas forcément ton propre espace que eux ont de fait. Donc moi, pour moi, ça a été pas mal Gloria, mais ça me fait aussi beaucoup penser à un lieu qui a été vraiment refuge pour moi, notamment à l'Arche. C'est cette petite chapelle qui est tellement belle. C'est une chapelle... je trouve que voilà, y a des chapelles dans lesquelles tu te sens plus ou moins bien, et notamment qui sont plus ou moins chaleureuses, dans lesquelles c'est un cocon ou potentiellement c'est grandiose, tu vois. Là, c'est une chapelle cocon. Et donc, t'as un sorte de parquet ciré magnifiquement bien. C'est une petite chapelle qui est souvent vraiment dans la pénombre. Et puis, t'as des petits shogis sur lesquels tu peux t'asseoir avec des tapis par terre. Tout le monde s'assoit par terre et tout. Donc, il y a pas mal de codes qui sont un peu cassés comme ça, où on veut simplement, en toute humilité, venir se déposer là et se retrouver dans son intériorité. Et en fait, la chapelle est évidemment tout le temps ouverte. Il y a toujours des petites bougies qui brûlent et c'est toujours un lieu de silence. Et malgré le fait que parfois tu puisses être 2, 3, 4 et tu peux très bien trouver des temps aussi seul dans cette chapelle, pour moi ça a vraiment été un refuge parce que tu peux très vite être dans ta propre intériorité et te sentir bien là et sentir qu'il y a un sort de... Ouais, t'accèdes à ce grand silence et à cette grande paix intérieure et tu peux rester des heures comme ça en méditation et pour moi ça a été un vrai refuge. Et après, je sais que l'un des refuges pour beaucoup, c'est la nature, c'est l'espace extérieur. Et en l'occurrence, t'en as évidemment toujours dans ces lieux-là. Et parfois, ton refuge, c'est simplement d'aller travailler dans ton verger, d'aller cueillir des fruits solo, avec tes petits oiseaux. Et en fait, t'as toujours de l'espace... t'as toujours des grands espaces extérieurs dans ces lieux-là et tu peux te retrouver seul dans la nature sans problème. Donc ça, je pense que aussi c'est un moment qui peut recharger les batteries pour les gens qui ont besoin de temps pour eux.
tu me disais tout à l'heure que tu étais revenu à l'Arche. Tu étais allé une première fois et tu es ensuite revenu. Qu'est-ce qui se joue quand tu reviens quelque part? Ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que parfois, y compris dans nos quêtes plus spirituelles ou d'intériorité, où, tu vois, on est encore dans une logique presque de consommation où on va multiplier les lectures, on va multiplier les séjours dans des lieux, on va multiplier les expériences. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec le fait de revenir dans un lieu avec des personnes que tu connaissais déjà, avec ce qui s'est joué quelque chose pour toi ou pas?
Eh ben ouais, carrément. En tout cas, je sais que moi, ce qui m'intéresse notamment dans ces expériences-là, c'est les rencontres que je fais avec les gens sur place. Parce que c'est justement les gens qui m'intéressent dans ces lieux. Je pense que ces projets sont porteurs si seulement si les gens qui portent ce projet ont fait un travail sur eux particulier, ont abouti à des réflexions particulières. Et en fait, voilà, les projets, c'est toujours les gens. Et j'ai rencontré dans mes expériences-là des gens assez exceptionnels, et notamment à l'Arche. Et en fait, tout de suite, t'es dans une autre catégorie quand t'es une personne qu'on a déjà vue et qui revient. Parce qu'il y a énormément de gens qui passent par ces lieux, notamment l'Arche. Et donc, ils sont habitués à voir des gens passer. Et donc, voilà, ils sont pas forcément dans une quête d'approfondir les relations avec les gens qui passent, parce que c'est beaucoup trop d'efforts, en fait, pour eux. Et donc, quand tu viens une deuxième fois, hop, tu passes tout de suite à une autre catégorie de gens avec lesquels, ça y est, ça vaut le coup d'approfondir. Et en fait, enfin, ça vaut le coup d'approfondir, et surtout, on va pouvoir plus naturellement prendre cette opportunité pour passer du temps ensemble, s'inviter à dîner. Et moi, j'ai vu qu'en termes de relationnel, il y a vraiment des liens qui se sont tissés, et donc des invitations pour certains moments partagés qui ont eu énormément de valeur pour moi. Et notamment, à l'Arche, chacun a son appartement, tu vois, en fonction de tes besoins. Si t'as plus ou moins d'enfants, t'as un appartement plus ou moins grand, et tout, les engagés, ils ont tous à peu près vu sur le Vercors, et c'est vraiment des beaux appartements, même si c'est très sobre, très simple, et ils ont tout retapé à la main. Mais en fait, la prestance du lieu, comme c'est dans une ancienne abbaye, et la vue que tu as sur le Vercors est telle que j'étais toujours super curieuse de toute cette vie derrière les portes des espaces privés, des communautaires. Là où toi, quand tu viens en bénévole, et bah, t'es un peu dans tes dortoirs aussi, ou dans, voilà, moi, dans mon van. Et donc là, la deuxième fois, j'ai pu accéder. Vraiment, c'est comme si j'avais pu mettre vraiment un pied de plus dans l'espace communautaire. Donc les gens qui sont engagés depuis 2, 3, 5, 10, 15, 40 ans pour certains, et qui vont venir t'inviter à prendre un thé, une tisane chez eux, et à avoir d'autres types de discussions beaucoup plus approfondies, beaucoup plus personnelles. Et ça, c'était génial pour moi.
J'ai une autre question qui me vient en lien avec peut-être le fait de revenir ou aussi le fait de choisir, par exemple, des activités sur des temps longs. En fait, moi, je suis souvent traversé par, tu vois, l'envie de faire tout un tas de choses dans ma journée, et je me demandais, tu vois, dans ces endroits-là, si le choix qui est fait d'avoir une seule activité pendant 3 heures un matin, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est très réfléchi, mentalisé, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui est très intuitif, ancré en toi, ou est-ce que c'est peut-être à mi-chemin entre les deux? Comment s'opèrent ces choix, finalement, d'aller sur des temps longs, d'aller sur le fait de revenir à quelque chose et l'approfondir? Comment ça se passe?
Mais en fait, moi, je crois que je commence à faire un lien entre le niveau de densité d'une ville ou d'un lieu et son niveau de connexion digitale à notre capacité à rester concentré sur quelque chose longtemps et ou à zapper en permanence. Et pour moi, en tout cas, la vie que je menais avant à Paris, spécifiquement, avec 2 téléphones portables, un téléphone perso, un téléphone pro, un ordinateur perso, un ordinateur pro, et puis un certain nombre de messages, évidemment, qui arrivent de mails, etc., qui te sollicitent parce que ton activité et tout, eh ben, j'étais dans un niveau de je jonglais un peu en permanence, et j'aimais ça parce qu'en plus, je trouvais que je jonglais bien. Donc, j'étais assez habituée à ça, et j'ai vraiment la sensation que être dans un lieu qui est réellement intégré à la nature, Parce que, en fait, c'est la zone zéro, c'est l'habitat dans la permaculture. Et après, assez vite, t'as l'espace de tes cultures, l'espace de tes fruits et de tes légumes, l'espace de tes animaux, l'espace sauvage autour. Enfin bref, tout ça est très, très organisé. Et donc, tu es, toi, intégré dans un système entouré de nature. Et tu es de facto connecté aux saisons, notamment. Et donc, il y a aussi quelque chose qui se joue de ce point de vue-là, parce qu'il y a des moments à saisir qui sont de l'ordre de la saison, parce que c'est le moment où il faut planter les semis, parce que c'est le moment où il faut faire la récolte de tel ou tel fruit ou légume, parce que c'est le moment où, bah ça y est, moi je me souviens à la ferme légère, de ce jour, il y a quelqu'un qui est rentré en courant dans la ferme en disant « Les fleurs d'acacia sont sorties !» Tout le monde a dit « Ok, toute la journée, récolte de fleurs d'acacia !» Et donc là, on est tous sortis avec nos sécateurs, les arbres étaient en fleurs, et du coup, c'est le moment pour récolter les fleurs, pour en faire ensuite du miel d'acacia ou de la gelée d'acacia, des beignets d'acacia. Et en fait, ton activité est dépendante de ce qui se passe dans la nature, et donc, quelque part, c'est le moment de faire ça, et ce sera pas demain. Donc ça t'empêche aussi vachement de repousser, de décider, t'as plus le contrôle sur le timing en fait, tu vois, donc ça t'amène à de fait être dans l'obligation d'approfondir, de commencer et de finir aujourd'hui ou en tout cas dans les 2-3 jours qui viennent parce que c'est le moment et on s'occupera de ce qui arrivera ensuite, par la suite quoi. Et de cette manière-là aussi, moi ça a été une opportunité... Avant de partir dans ce voyage, j'ai fait une semaine avec ma cousine et ma tante, et ma tante me disait « Bon, mais donc du coup, tu fais quoi ? Tu coupes ton téléphone pendant ces expériences et tout ?» Et je lui disais « Bah non, moi j'ai pas prévu de... C'est pas ça l'expérience que je veux vivre, enfin, j'ai pas particulièrement besoin de couper mon téléphone. » Et puis, en fait, elle avait l'air super étonnée de ça, en disant « Ah bon, mais pourquoi tu coupes pas ton téléphone et tout ?» Et en fait, je sentais qu'en moi, il y avait une résistance, tu vois. Parce que vraiment, je disais, bah non, je vois pas l'intérêt. Enfin, et au bout d'un moment, ça m'énervait de me voir réagir comme ça, de me dire, bah, en fait, qu'est-ce qui bloque là dans cette manière de réagir ? Et donc, en ayant dormi dessus, le lendemain, je me suis dit, bah t'as raison, en fait, je pense que ce serait bien d'essayer de couper mon téléphone. Et donc, je suis arrivée dans cette première expérience à la ferme, au mois d'avril de l'année dernière, et j'ai décidé de couper mon téléphone pendant un mois. Et donc, j'avais pas d'ordi, j'avais pas d'autre téléphone. Donc, en fait, j'étais déconnectée pendant un mois. Et en fait, ça peut paraître une expérience intéressante à vivre, mais c'est totalement révolutionnaire, en fait. C'est complètement... en fait, ça vient toucher au fondement même de notre manière d'être. Et de moi, de décider d'aller sortir cette carte SIM de mon téléphone, la mettre dans mon portefeuille, éteindre mon portable, et ne pas la voir avec moi au quotidien, et ben, c'est comme si... Tout ce qui n'était pas présent là maintenant autour de moi n'avait plus aucune importance. Tu vois, t'as plus la capacité d'être en permanence en train de penser à ce que vivent les autres, à qui est-ce que tu devrais partager cette expérience, comment est-ce que tu pourrais capturer cet événement en prenant une photo de ci ou de ça. Et donc, ça t'amène tout de suite à vivre beaucoup plus l'instant présent. Et je pense que, voilà, par exemple, à la ferme légère, personne n'a de téléphone, enfin, alors le smartphone, pas du tout. Alors dans les différents écolieux, il y en a qui avaient des smartphones, mais c'était très commun de voir des 3310 et tout. Et surtout, j'étais étonnée de voir dans tous les lieux, même à l'arbre qui pousse et à El Capitan, tu voyais jamais un téléphone sur une table. Enfin, tu sais, c'est pas le truc. Le téléphone, on l'a pour appeler. Et en fait, il est rangé souvent quand même. Et par exemple, à la ferme légère, t'as un fixe. Et si tu veux joindre quelqu'un à la ferme, t'appelles le fixe, quoi. Et donc dans le jingle du podcast, à un moment, si on écoute bien, il y a quelqu'un qui dit Marc. Et quoi ? Téléphone ! Et donc tu te remets à entendre ce genre de phrase, tu sais, de quand on était petit et t'appelles en disant « Bonjour, je cherche à joindre Marc, ok, je vais te chercher au fond du jardin, tu vois. » Bref, mais ça, c'est des choix qui changent beaucoup le rapport au temps, en fait.
Et j'aimerais revenir sur ce rapport au temps, parce que évidemment, on est dans une logique continue d'accélération, face à laquelle, moi, je ressens très souvent une injonction au ralentissement. Et ce que tu disais sur les saisons m'intéresse pas mal parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est ni de l'ordre de l'accélération permanente, ni de l'ordre de l'injonction au ralentissement, mais qui est plutôt une capacité à s'adapter finalement à un tempo qui à la fois toi te va bien en tant que personne, qui va bien probablement au groupe. Et donc ce que je comprends, c'est que les saisons sont un guide vers la justesse de ce tempo. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, toi ou les groupes que tu as fréquentés, vous guident vers le fait de trouver le rythme adapter le rythme qui va bien aux individus et aux collectifs. Sauf que c'est vraiment pas évident de trouver ça, et ça m'intéresse pas mal. Si t'as observé peut-être même des toutes petites choses qui servent comme ça de guide au même titre que les saisons ou l'éclosion des fleurs.
Déjà, effectivement, quand tu travailles dans ce genre de lieu, on te dit souvent, attention, ça va être potentiellement un rythme exigeant. Et donc, on compte sur la souveraineté de chacun et la responsabilité de chacun pour poser ses propres limites. Et dire, ça me convient, ça, je peux faire. Aujourd'hui, je travaille pas parce qu'en fait, j'ai besoin de repos. Donc déjà, il y a une posture qui est prise... surtout par les gens qui vivent cette vie-là depuis un moment et du coup qui t'incitent toi nouveau à apprendre d'eux, d'être capable de sentir toi-même les moments où il faut que tu te reposes, de sentir et surtout de communiquer tes limites et de pas avoir honte de ça. Ça, c'est un vrai travail parce que de la même manière, ça demande déjà d'être capable d'écouter son corps. Et ça, c'est pas rien. Et ensuite, ça demande d'être capable de le dire de la bonne manière aussi pour que, ça soit très bien accepté, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un travail qui s'apprend et ça se travaille un peu au jour le jour comme ça. Et c'est intéressant de prendre exemple sur les gens qui ont réussi à faire ça et depuis un moment qui eux-mêmes ont cette lecture intérieure. Mais le collectif aide beaucoup à ça. C'est-à-dire que quand t'en as un ou deux qui vont régulièrement être capables de faire ce stop malgré ces besoins de... parce que la nature, elle attend pas non plus. Donc parfois, il y a des choses à faire, il faut les faire. Mais tu décides que tu feras moins et tant pis. Ou tu décides de demander de l'aide. Ou tu décides de... Il y a plein de manières de se respecter tout en faisant le job ou en faisant moins. Ça, c'est une première chose, apprendre à écouter son corps. Et après, effectivement, tu parlais des saisons. Ce qui est cool dans les saisons, c'est qu'il y a une saison, voire deux, qui sont vraiment des saisons dédiées au ralentissement. Et en fait, en hiver, c'est de fait, tout le monde apprend et est obligé, entre guillemets, de ralentir parce que il y a moins d'heures de lumière du jour et que quand tu fais attention à tes consommations d'énergie, etc., tu vas te coucher plus tôt, tu vas te lever plus tard. Quand il fait froid à l'extérieur, tu vas plutôt rester à l'intérieur et donc ce sera du travail plutôt intellectuel où tu vas chercher à travailler sur ton collectif ou à travailler sur les projets de l'année à venir. Tu planifies, tu ranges, c'est vraiment une saison dédiée plus à l'intériorité et donc à partir du moment où ça t'oblige à ralentir, t'es capable de connaître et de vivre ce rythme plus lent. Et en fait, ça me fait aussi vachement penser au cycle de la femme qui lui-même est une suite de saisons. En fonction des temps, d'ovulation, de règles, etc. Et si en fait on connaît bien notre cycle, qu'on le respecte et qu'on connaît les différentes phases, c'est vachement facilitant de savoir quand est-ce que t'es dans ton printemps et que c'est le moment de faire plein de trucs et que ça y est, t'es en pleine forme et c'est le moment d'activer des projets, etc. Quand est-ce que c'est le moment de faire le bilan en automne, de ranger les trucs, quand est-ce que c'est le moment maintenant vraiment de se poser, de se reposer, c'est l'hiver, pendant les règles, etc. Et en fait, en soi, les femmes doivent pouvoir aider aussi à avoir un sort de cycle avec des ralentissements et des accélérations en fonction de leur propre cycle, quoi.
Et j'aurais envie de te proposer un petit jeu avec chacun de nos sens. Est-ce que y a par exemple un son que tu as pas retrouvé dans ces lieux et c'était plutôt une bonne nouvelle? Et est-ce qu'il y a un son que tu as trouvé et que tu trouvais pas avant et t'étais très heureuse de le trouver? Et je serais assez content qu'on fasse ça avec les cinq sens, mais commençons par le son d'abord.
Romain, j'adore. Ça va dépendre vraiment des différents lieux, mais en tout cas, un bruit que j'ai vraiment beaucoup moins retrouvé et qui m'a fait du bien, c'est le bruit des moteurs. Et en fait, c'est tellement présent dans la ville, mais même dans nos campagnes, en fait, parce que les tracteurs, les voitures, les tondeuses, les tronçonneuses, et quand les moteurs sont allumés, ils prennent beaucoup de place en termes sonores. Et dans ces lieux-là, comme en règle générale, c'est des lieux qui cherchent. Alors ça dépend desquels, hein. C'est pas le cas de tous, mais un certain nombre tendent à minimiser l'usage des moteurs parce que des énergies fossiles, etc. Et ben en fait, c'est fou d'avoir la capacité de réentendre beaucoup mieux la nature en travaillant, parce que t'es pas du tout dans un moteur. Par exemple, à la ferme légère, il n'y a pas de tondeuse, etc. Il y a des faux faites maison, et en fait, régulièrement, c'est le temps d'aller faucher pour en fait, tondre, quoi. Et c'est là où aussi t'as un relationnel différent avec les animaux qui aident et qui, eux, sont les ânes et les chèvres et qui tondent la moitié du terrain. Et quand toi, il te reste le quart du terrain à faire, tu te dis, heureusement qu'ils sont là et t'es très reconnaissant de leur présence, quoi. Ça te donne aussi un autre rapport aux collègues non-êtres humains. Donc voilà, le bruit que je n'entendais plus pendant un certain temps et qui m'a fait vraiment du bien, c'est les moteurs. Et celui que j'ai entendu... à l'arche, ce serait vraiment la cloche. C'est vraiment un symbole fort de mes expériences là-bas. Parce que ça rythme la journée, parce que c'est un son qui est pas neutre, ça appelle aussi à... Et en fait, à l'arche, il y a plusieurs heures de la journée qui sont sonnées pour faire un temps de silence intérieur. Donc t'as 3 ou 4 fois dans la journée où t'as la cloche qui sonne, tout le monde s'arrête. Ça s'appelle le rappel. C'est un rappel à soi, en fait. Tout le monde s'arrête d'éplucher les légumes, de récolter des trucs, d'être dehors, de je sais pas, de couper du bois à la hache et tout. Soudainement, tu vois que tout le monde se relève et puis il y a un grand silence et tout le monde est dans le silence et de la même manière, soudainement, t'entends autre chose. Parce que tu pouvais être dans tes discussions ou quoi et là, il y a un autre son qui émerge. Et pour d'autres expériences, je dirais que vraiment c'est des sons de la nature qui m'ont marqué, et notamment la grenouille à la ferme légère. Parce que il y a beaucoup de grenouilles qui ont quitté un certain nombre de nos campagnes. C'est pas un son qu'on entend si souvent. Et à la ferme légère, c'est en permanence. Dès que c'est, en fait, elles sont tout le temps là. Et ça fait vraiment partie de l'ADN sonore de ce lieu, pour moi.
C'est marrant que tu parles des grenouilles. Tu sais, quand j'avais fait Vipassana, t'as le droit d'aller te promener dans un tout petit espace de forêt et de champs. Et en fait, bon, c'est le seul truc que t'as à faire quand t'es pas en train de méditer. Et progressivement, je me suis aperçu qu'il y avait des centaines de petites grenouilles sur le chemin. Et donc, je les ai d'abord vues, puis entendues. Et je finissais presque par leur donner des noms, tellement je me suis fait un peu chier, quoi, tu vois, quelque part, dans ce truc-là. Donc c'est rigolo que tu mentionnes les grenouilles. Bah, même question, et on voit ensuite si c'est trop long et si on n'a pas envie de tous les faire, mais quand même sur l'odorat, les odeurs, je serais assez curieux de savoir ce qui t'a marqué à la fois, toujours dans cette dualité de ce qui est plus là et en fait on est content que ce soit plus là et peut-être ce à quoi ça laisse la place ou une toute autre odeur que t'aurais... trouvé dans ces lieux et à laquelle tu t'es attaché.
J'ai quelques odeurs qui sont pas forcément plaisantes que j'ai trouvées dans les écolieux et qui me reviennent là. Donc c'est un peu dans l'autre sens. Mais il y a beaucoup plus d'odeurs brutes, notamment de transpiration ou de toilettes sèches, tu vois, qui sont des odeurs qui ont été assez vite sorties de nos vies urbaines, où tout le monde fait attention, de toute façon, quand t'as des chasses d'eau, de je sais pas combien de litres d'eau à chaque fois qui t'emmènent tout ça, ben, en fait, il y a beaucoup moins d'odeurs. Donc ça, il y a quand même un peu de ça, mais en fait, faut pas retenir ça, parce que c'est pas du tout prépondérant, et c'est juste à certains moments, soudainement, tu te dis que... Et j'ai le souvenir d'une discussion avec quelqu'un qui me disait... Mais je déteste aller en ville, il y a tellement de parfums, ça cocotte, ça me rend dingue, ça me donne mal à la tête, je trouve ça horrible. Vraiment, je préfère de 1000 fois quelqu'un qui sent un peu la transpiration que quelqu'un qui se parfume, quoi. Et j'étais là, mais c'est drôle, ça, c'est vraiment complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de vivre. Puis quelqu'un qui disait, oui, les odeurs, c'est vrai que c'est plein d'informations, en plus, les odeurs corporelles, Moi, je trouve ça utile et intéressant de garder nos odeurs. En fait, ça dit des choses de nous. Voilà, il y a pas de tabou, quoi. Donc, sur les odeurs, je pense à ça. Après, c'est sûr que dans les lieux dans lesquels j'étais, comme c'est aussi du travail physique, collectif et tout, les moments de repas sont hyper importants. Et donc, très souvent, tu vas avoir quelqu'un qui passe sa journée en fait à cuisiner pour les autres. Donc, t'as toujours des trucs qui mijotent quand tu passes à côté de la cuisine extérieure ou à l'intérieur. Et tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose pour prendre soin du moment qu'on va partager, pour remercier le travail accompli et tout. Et donc, il y a quand même souvent des très bonnes odeurs aussi de plats cuisinés. Exclusivement végétariens, en règle générale. Sauf quand il y a une vieille poule du poulailler qui est décédée, qu'on l'honore. Et que c'est la première fois de ma vie, d'ailleurs, que j'ai mangé de la poule. En fait, quand on mange du poulet, c'est des poulets mâles. C'est pas des poules pondeuses qu'on mange. Parce qu'en fait, elles ont trop travaillé, les poules pondeuses. Du coup, c'est pas du tout la même texture de viande. Et du coup, t'es obligé de... C'est ça, la poule au pot, en fait. C'est la vieille poule qu'on fait mijoter pendant des heures. Parce qu'en fait, sinon, ça se fait pas rôtir. Et pour avoir goûté ça, je me disais, waouh, ouais, mais c'est horrible. Enfin, c'est vraiment pas bon, tu vois. Genre, c'est super dur, ça se mastique, c'est pas du tout agréable. Et en même temps, t'honores la bête. Donc, tu la fais cuire. Alors après, il y avait des recettes un peu à l'africaine. Je me souviens, Momo, il nous cuisinait des trucs pas mal avec ça. Mais la vieille poule, c'est aussi un pour le coup, si on passe au goût, ce serait un truc que j'ai goûté pour la première fois. La vieille poule mijotée qui nous a pondu des œufs et qu'on honore plutôt que voilà. Enfin, ça, c'est des nouvelles expériences.
Bon, t'auras le droit de faire avec toucher et vu si ça t'inspire. Et en faisant comme ça le tour de ces 500, je me demandais aussi si dans ces lieux-là, t'avais touché du doigt des états de conscience modifiés. Et si oui, par quoi est-ce qu'ils sont venus? Je crois que je t'en avais parlé, j'ai pas mal fasciné par le travail de Corinne Sombrin, tu sais, cette personne qui part en Mongolie, qui découvre qu'elle est chamane au moment de faire une prise de son pour la BBC et qui ensuite se fait suivre par des scientifiques et qui décide d'aider des personnes à auto-induire des trans. Est-ce que dans ces lieux, t'as évoqué hein, déjà, que ce soit dans la chapelle, que ce soit dans le silence, dans l'activité, sans forcément parler de trans ou absolument de quête, tu vois, spectaculaire d'état de conscience modifié, mais est-ce qu'à certains endroits, tu t'es dit, ah tiens, là, il y a une petite différence en moi qui se joue dans ma façon d'être, dans ma façon de ressentir les choses?
Ouais, super question, ça me fait penser à plein de choses. Je vais d'abord partager notamment la vue que j'ai en tête là. Évidemment, ce qu'on voit souvent dans ces lieux et qui fait vraiment du bien, c'est l'horizon, simplement. Et c'est pas... Ouais, c'est... Pour moi, vraiment, se lever et très vite sortir ou avoir accès à un extérieur, parce que par exemple c'est pareil, les lieux dans lesquels t'as des toilettes sèches, de toute façon tu te réveilles, tu sors tout de suite dehors. Et ça, c'était aussi une odeur qui m'est venue quand tu me posais la question, cette odeur de brume du matin très tôt où tu sens que tout se réveille, que t'as les oiseaux qui sont présents, parce que généralement tu te réveilles avec le lever du soleil, donc c'est un moment très spécial de la journée. Tout est fait en fait dans le lever du soleil pour honorer la journée qui arrive et te préparer à ce nouveau jour. Et c'est très précieux, en fait, de vivre un lever du soleil à l'extérieur. Et commencer sa journée comme ça, ça change tout, je trouve. C'est pas les mêmes journées. Donc, commencer la journée en ayant une vue, par exemple, sur le Vercors ou sur une grande prairie, sur une forêt, même si t'as mal dormi, si tu te réveilles en disant... En fait, je sais pas, j'ai fait des mauvais rêves ou je me sens pas hyper bien aujourd'hui. Tu sors, tu vois ça, instantanément, ton état est transformé. Donc ça, c'est des lieux de vie qui nous transforment, en fait. Donc pour la vue, il y aurait ça. Et après, il y avait le toucher, hein, on avait dit. J'ai un peu envie de dire le bois, même si c'est pas forcément... la terre, la terre, bien sûr. Ah ouais, c'est parce que ça devient une habitude. Ça devient vraiment une habitude, hein, les mains dans la terre, et de petit à petit savoir entrer en contact avec cette terre, la comprendre, voir à quel point elle est tassée, à quel point elle est sableuse, à quel point elle est argileuse, à quel point elle est humide. Et en fait, t'as des réflexes qui se mettent en place quand tu vas planter tes semis, quand tu vas désherber, quand tu vas prendre soin de tes plants et tout, au toucher par rapport au contact de la terre. Ah, qu'est-ce qu'elle me dit cette terre aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans le sol? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Comment je peux en prendre soin? Moi, j'ai vraiment touché du doigt ça. C'est le tout début, mais tu vois bien l'importance du toucher de la terre pour les gens qui font ça de leur quotidien, quoi. Et je me souviens juste pour cette petite anecdote, on s'était passionné pour la belote avec des copains dans une expérience de woofing et donc il y avait un concours qui avait été organisé dans le village du coin et on avait pris nos vélos et on était partis une après-midi, il drachait, il pleuvait et tout, et on avait fait notre demi-heure de vélo pour aller dans le village jouer à la belote. On est arrivé, c'était le club du troisième âge, tout le monde nous a applaudi parce qu'on y avait des jeunes, ils étaient trop contents et tout, il y avait quand même une centaine de personnes, tu vois, et nous on est arrivé à 10, voilà, entre 20 et 40 ans, quoi, pour jouer à la belote. Et je me souviens m'être assise à une table et il y avait, j'étais avec une femme qui s'appelait Colette et une femme qui s'appelait Françoise. Et Colette, on jouait contre elles à la belote et puis elles étaient super apprêtées parce que voilà, c'est le grand jour du concours de la belote. Et moi, j'ai pris les cartes et en posant ma main sur les cartes, j'ai vu que j'avais vraiment de la terre sous tous les ongles. Et en fait, je me suis sentie un peu mal à l'aise parce que c'était un peu la première fois que je sortais vraiment du cocon de l'écolieu pour rentrer dans la civilisation et que j'avais pas fait gaffe à la manière de me présenter et qu'il y avait sorte, comme un sort de soudainement de choc de moi me voir dans la posture de cette personne un peu trempée avec son vélo, son caouet un peu mal foutu, de la terre sous les ongles. Et j'ai vu le regard de Colette sur ma main et je me suis dit, oh, ça c'est... Ça parle tellement de la manière dans laquelle je vis en ce moment, tu vois, ce que je suis en train de vivre. J'avais l'impression d'avoir été démasquée, tu vois. Bref, ça c'est pour l'expérience de la terre, donc du toucher. Donc ensuite, pour parler des états de conscience modifiés, j'ai eu une expérience dernièrement que je voudrais bien partager, mais je dirais pas, en tout cas dans ces expériences, dans les lieux de vie collectifs, je dirais plutôt que j'ai expérimenté des états de présence modifiés. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si j'avais réussi à accéder, et ça, pour moi, ça a énormément de valeur, et je crois qu'on est tous appelés à vivre ça et à savoir que c'est présent en nous et que c'est très précieux, et pour moi, c'est notre zone de la source spirituelle, si tu veux. Et en fait, quand t'es suffisamment dans l'instant présent, suffisamment disponible, suffisamment ouvert, les chakras ouverts, les canaux ouverts pour vivre cette transcendance, eh bien, tu accèdes à un état de présence qui est très différent, et de rapport à ton corps, de rapport à ton intériorité, et du coup, de rapport à tout ton environnement. C'est comme si tu avais une conscience de ce qui se passe autour de toi, beaucoup plus large. C'est comme si, je sais pas, t'étais dans une bulle énergétique plus large, ou... Je ne sais pas du tout concrètement comment ça pourrait se matérialiser, mais dans le ressenti, c'est comme si tu étais à la fois très enraciné, donc présent dans ton corps, et à la fois beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que d'habitude dans ta présence. Et ça, pour moi, ça se vit surtout dans des états de méditation et dans les chapelles, mais j'imagine que pour certains, ça se vit très bien aussi dans la nature, en travaillant ou... Donc voilà, ouais, je parlerai plutôt d'état de présence modifié. Et sinon, oui, j'ai vécu une expérience dernièrement, alors qui n'a rien à voir, mais pour une amie, on lui avait offert une expérience Wim Hof. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, quand tu vas te plonger dans des bains très froids. Okay. C'est une technique pour... apparemment, c'est très bon pour le corps, pour le cœur, pour la circulation. Ça te redonne une nouvelle énergie et tout. Et ça te permet de travailler le mental aussi. Bon, moi, comme je suis enceinte, je l'ai pas faite. Mais en revanche, ils nous ont proposé de faire les exercices de respiration qui précèdent le bain froid. Et pendant une demi-heure, en fait, tu fais une respiration très saccadée, assez intense. Et c'est long, en fait. Tu respires de manière différente pendant un long moment. Et moi, je sais qu'on peut accéder à des états de transe avec des respirations qu'on appelle holotropiques, pour avoir eu des témoignages là-dessus. Et en fait, en vivant cette expérience, je m'attendais pas une seule seconde à vivre quelque chose de particulier. Je m'étais dit, bah voilà, on prépare notre corps pour un bain froid. Bon, moi, je le ferai pas, mais c'est sympa, c'est pour accompagner les copines. en le faisant un peu sérieusement, il y a eu un moment où j'ai l'impression que c'est comme si mon corps était super lourd, loin, et comme si soudainement j'étais partie dans un univers totalement différent. Je sais pas du tout si ça a duré longtemps ou pas du tout longtemps, j'ai aucune notion du temps, mais j'ai vécu une expérience. Je peux pas la raconter non plus parce qu'en fait, quand je suis revenue dans mon corps, à un moment, il nous rappelait, et moi, j'ai mis du temps à revenir. Et quand il nous a demandé de nous asseoir et tout, j'ai senti que j'avais perdu toute la substance de ce que j'avais vécu. C'est comme si c'était hyper évanescent et ça y est, j'y avais plus accès. Mais en fait, il me semblait que c'était vraiment quelque chose de très cosmique, dans le sens où c'était un lien avec le cosmos. Et en l'occurrence, il me semble que j'étais en connexion très forte avec le bébé. Et j'étais complètement bouleversée par cette expérience. Pendant plusieurs minutes après, je me disais, mais c'est complètement fou ce que je viens de vivre. Je sais que j'ai jamais vécu un truc comme ça. C'est pas un rêve, ça ressemble pas du tout à un rêve. J'étais pas vraiment endormie, mais en même temps, mon corps était complètement répondait plus vraiment. Donc, je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai la sensation d'avoir touché du doigt ce que peut être un état de conscience modifié.
Shiva Shiva Shambho.